Bonjour. Jean Albertini est décédé le 21 septembre 2006, il y a 10 ans, à l'âge de 76 ans. Et c'est cet anniversaire que nous commémorons ce jour. Avec lui, nous avons réalisé une série de plus de 30 émissions consacrées à Louis Aragon. Avant toutes celles-ci, si on peut le dire ainsi, nous l'avions reçu le 15 novembre 1999, soit il y a presque 17 ans, pour qu'il évoque Louis Aragon à l'occasion d'un spectacle de Gérard André chantant Louis Aragon à la salle des Rancis à Lyon à ce moment-là. Bien entendu, nous ne nous sommes jamais remis de sa disparition, assez brutale de surcroît. Nous n'avons même pas eu le temps de terminer le projet que nous réalisions ensemble au fil des mois et des années. Aujourd'hui donc, nous vous proposons de le retrouver dans cette émission hors-série, restée inédite depuis sa diffusion en direct ici même le 15 novembre 1999, émission donc d'avant les autres, cette rediffusion en hommage à Jean Albertini et à son immense travail et réflexion autour de l'œuvre de Louis Aragon. Nous vous invitons ainsi à retomber sous le charme de l'érudition de Jean parlant d'Aragon. Bonne écoute.
Sais-je pourquoi je l'ai suivi, ce chemin nulle part qui mène, comme les ponts passent la Seine, j'enjambe le temps de ma vie. Je ne suis qu'une ombre sans rime, un écho jamais éveillé, et comme un gant dépareillé, la preuve d'on ne sait quel crime. Sais-je pourquoi je l'ai suivi, ce chemin nulle part qui mène, comme les ponts passent la Seine, j'enjambe le temps de ma vie. Chaque jour un peu plus se fend, ce cœur insensible à l'en croire, et dans la chair de la mémoire s'enfonce un couteau plus avant. Sais-je pourquoi je l'ai suivi, ce chemin nulle part qui mène, comme les ponts passent la Seine, j'enjambe le temps de ma vie. Ce chemin nulle part qui mène, sais-je pourquoi je l'ai suivi, j'enjambe le temps de ma vie. Comme les ponts passent la Seine, sais-je pourquoi je l'ai suivi, ce chemin nulle part qui mène, comme les ponts passent la Seine, j'enjambe le temps de ma vie. Ce chemin nulle part qui mène, sais-je pourquoi je l'ai suivi, j'enjambe le temps de ma vie, comme les ponts passent la Seine.
Et nous consacrons ce soir cette émission à Louis Aragon. Louis Aragon, chanté par Gérard André. Et nous avons un invité avec nous qui connaît mieux que personne à Lyon, je crois pouvoir le dire, Louis Aragon. C'est Jean Albertini, qui est responsable régional de la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Trionnet. Jean Albertini, bonsoir.
Bonsoir.
On a donc choisi avec vous de parler de Louis Aragon, puis peut-être aussi des chansons, des textes qu'a choisi de chanter Gérard André autour de Louis Aragon. Auparavant, on peut peut-être dire quelques mots de cette association des Amis de Louis Aragon, qui est connue d'un certain public, puisque vous avez, en plus des publications littéraires, on va dire, créé une exposition qui commence à avoir fait un joli tour de Lyon, et fort intéressante, puis peut-être d'autres activités aussi, si vous pouvez, en quelques minutes, nous présenter tout ça.
Oui, bien volontiers, merci. Oui, l'expo, elle a fait le tour de Lyon, et elle a fait le tour de France aussi, elle va bientôt partir à l'étranger. Si vous voulez, la Société des Amis d'Aragon, et, enfin de Louis Aragon, puisqu'il faut lui donner son libellé exact, et Elsa Triolet, c'est une société littéraire comme il y en a plus d'une centaine en France. L'IMEC en a fait un catalogue, on en recensait il y a 2 ou 3 ans 105 ou 106. Bon, il y en a qui naissent, il y en a qui meurent, il y en a qui ont beaucoup d'adhérents, il y en a d'autres qui en ont fort peu. Moi, je fais partie de 5 ou 6 associations de ce genre, et je sais que dans une d'entre elles, je ne vais pas la nommer, nous sommes une douzaine. La Société des Amis d'Aragon et d'Elsa Triolet est une des grosses sociétés littéraires qui existent en France. Nous avons actuellement autour de 530 adhérents, ce qui est relativement peu par rapport aux 60 millions d'habitants de l'Hexagone, mais qui est quand même beaucoup par rapport à d'autres et par rapport à ce type d'activité. Nous avons effectivement une revue qui s'intitule « Faites entrer l'infini ». C'est la dernière phrase du manifeste, du premier texte manifeste surréaliste que Aragon a écrit et qui a été publié par la revue Commerce en juin 1924, c'est-à-dire 4 mois avant le premier manifeste de Breton. Et cette petite phrase qui est très belle, « Faites entrer l'infini », c'est la dernière phrase de ce texte. Ce texte s'intitule « Une vague de rêve ». Et alors nous avons une revue qui paraît tous les 6 mois, qui a une originalité, c'est que ce n'est pas une revue uniquement de texte, c'est une revue qui est à chaque numéro illustrée par un peintre, vivant ou mort, parce que en général des peintres ou des sculpteurs qui ont été des amis d'Aragon. Aragon a joué un très grand rôle dans la, disons, dans la critique, y compris d'art, hein. C'était un ami de Tanguy, un ami d'André Masson, un ami de Picasso, un ami de bien d'autres, on pourrait en donner le détail, mais enfin ça n'est pas le lieu ici. Et donc on a souhaité, et tout le monde est d'accord là-dessus dans la société, précisément illustrer, chaque numéro est illustré par un seul peintre ou un seul sculpteur.
Et les contributions littéraires des numéros, c'est pas des inédits d'Aragon, c'est pas vous.
Alors, il y a y compris des inédits, des inédits, il n'y en a pas des masses. Il y a une rubrique dans la revue qui s'intitule « Les introuvables », et qui est une rubrique qui redonne des textes qui sont peu connus, ou qui n'ont même quelquefois jamais été publiés, ou qui ont été publiés, qui sont enfouis dans des revues depuis des décennies, et qui sont très difficiles à se procurer, y compris pour les chercheurs, parce qu'ils ne sont pas dans beaucoup de bibliothèques. Il y a beaucoup de textes d'Aragon qui sont épars, qui n'ont pas encore été édités en volume. On a entrepris l'année dernière l'édition chez Stock, parce que vous savez qu'il y a 2 éditeurs qui se partagent l'œuvre aragonienne, Gallimard d'une part, et Stock a racheté les droits de toutes les œuvres qui n'étaient pas chez Gallimard. Et dans ce cadre-là, Stock commence à éditer une série qui s'appelle Chroniques, qui sont de gros volumes de 500-600 pages. Le premier est apparu l'année dernière, édité par un chercheur aragonien qui est un homme de très grande valeur, et l'édition est tout à fait remarquable, Bernard Leliot. Et ce sont les chroniques parues dans la presse, y compris dans la Révolution surréaliste, etc., entre 1918 et 1932. Il y en a déjà 500 pages, là, plus un certain nombre d'autres, d'ailleurs, qui ont été oubliés, qui seront dans des... C'est parce qu'il y a des petites revues qu'on n'arrive pas à se procurer. Et donc, on prévoit, dans cette édition-là, on prévoit 7 ou 8 volumes de 500 pages. À mon avis, ça suffira pas, ça sera bien loin de suffire. Et puis, on a une autre revue depuis cette année, qui commence à paraître, mais qui est annuelle, et qui est alors constituée d'un volume de 250 pages en moyenne, qui s'intitule « Les annales de la Société des Amis d'Aragon ». On a publié là-dedans un inédit sous peau dans le premier numéro, et puis un texte très curieux qui a été écrit par un Américain qui était venu voir Aragon justement dans la région, à Saint-Donat, sans doute le 30 août 1944. Il était parmi les gens qui avaient débarqué à Saint-Raphaël le 15 août, et Aragon lui a raconté toute l'activité clandestine, y compris des choses que personne ne savait. Et ce truc-là a été publié aux États-Unis en anglais, en américain, fin 45, et n'avait jamais été republié. Et nous, on l'a fait traduire, on l'a publié en français dans ce numéro.
Intéressant, hein. Ouais. Donc beaucoup de production et de travail comme ça. Alors on a avec vous un projet qu'on mettra en route, je pense, en début d'année prochaine, sur un certain nombre d'émissions non définies à ce jour avec Aragon, il vaut mieux être prudent, pour évoquer le parcours d'Aragon. Je ne sais pas si ce sera, si on suivra l'ordre chronologique ou pas, c'est vous qui nous direz ce qu'il vaut mieux faire. Hein. Pour ce soir, on va se contenter d'évoquer quelques textes, chansons et de parler un peu autour. Là, on a commencé, j'allais dire, par la fin, puisque « Comme les ponts passent la Seine », c'est un texte qui est extrait des Adieux, donc le dernier, je crois, enfin, le oui, dernier du vivant d'Aragon.
C'est le dernier recueil poétique d'Aragon. Hein. Il est intitulé... Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une erreur, manifestement, parce que, je ne sais pas, c'est une erreur de l'éditeur, c'est Rista qui a fait l'édition. C'est « Poème des années 60 ». Or, manifestement, ce texte-ci n'est pas un poème des années 60, c'est un poème qui date d'après la mort d'Aragon, c'est-à-dire d'après 70.
Mais dans le bouquin, l'éditeur se serait trompé en désignant comme poème des années 60 un certain nombre de textes, c'est ça
Oui. C'est-à-dire qu'il y en a parmi ces textes qui sont des années 60, mais celui-ci est manifestement d'après.
Ah oui, ça m'avait aussi paru bizarre à lire certains textes.
Il n'y a rien qu'à lire le texte, on comprend tout de suite.
Ça échappe comme ça aux éditeurs.
C'est un texte sur la solitude. Je sais pas, j'avoue que il faudra que je pose la question à Jean, parce que, si vous voulez, il l'a fait un peu en fonction de... sans doute qu'il y avait une chemise qui était où il y avait des textes qui étaient marqués « Poème des années 60 ». Et à l'intérieur de cette chemise, il y avait entre autres celui-là, qui est manifestement d'un peu plus tard.
Mm-hmm. Oui, et parce que c'est vrai qu'en en 60, Aragon, c'est la solitude, sur la vieillesse peut-être.
Oui, la vieillesse solitaire, précisément.
J'ai constaté, en feuilletant ce bouquin, dans les années 60, il se considérait déjà comme vieux, Aragon. Mais il n'était pas tant que ça, quand même.
Même avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous, qu'il y avait une discothèque fantastique, le poème qui était chanté par Monique Morelli, Maintenant que la vieillesse. C'est un très beau texte, une très belle chanson. Vous savez quand est-ce qu'il a écrit ça?
Non.
Question à 100 balles. Il a écrit ça en 1948.
Oula. Ouais, et il avait 51 ans.
Eh bien, il avait 51 ans, oui.
Ouais. Donc, ouais. Bah, c'est peut-être aussi le fait du poète, ça, de se projeter un peu comme ça.
Oui. Puis enfin, on peut sentir la vieillesse avec une vie aussi remplie que la sienne, même à 51 ans, il commençait déjà sans doute à sentir le poids de...
Pourtant, il n'avait pas fini d'écrire.
Non, il n'avait pas fini d'écrire, bien loin de là.
On pourra reparler de ça aussi à son sujet, la formidable puissance de cette machine à écrire, ouais, de la littérature.
Il a employé cette expression pour parler de lui-même.
Il a employé. Ouais.
Machine à écrire. Ouais.
Qu'est-ce qu'on écoute comme deuxième morceau? Vous avez une préférence ou je vous propose?
Non, moi je vous suis. Hein, vos choix sont toujours judicieux.
Bon, toujours un extrait sur une musique originale de Gérard André, donc un texte, une musique je trouve qui est très réussie avec le poème. C'est Jeunes gens, il est classé dans la même catégorie, poème des années 60, dans les adieux. On peut peut-être se poser la même question.
Il est possible qu'il soit des années 60. Hein. Malgré tout, vu le thème, je me demande, parce que vous avez vu de quoi il s'agit, hein, jeunes gens qui parlaient tout bas quand je passe, écoutez s'éloigner mes pas, Ça fait penser à ces déambulations nocturnes d'Aragon après la mort d'Elsa pendant les années 70. C'est un homme qui dormait très très peu. Et il parcourait Paris à pied. D'ailleurs, ça lui a valu un accident d'automobile et il s'est fait renverser sur la place de la Concorde.
Mais ça, il le faisait déjà à 18 ou 20 ans.
Il le faisait déjà, oui, le paysan de Paris. Hein. Ouais. Mais il a continué plus tard. Hein. Et donc, à voir ce qui est dit dans ce texte. Moi, je l'imagine seul, mais enfin, je peux me tromper. Hein.
Ben, on va soumettre ça à la sagacité de nos auditeurs en leur proposant d'écouter la chanson.
Jeunes gens qui parlaient tout bas, quand je passe, écoutez s'éloigner mes pas, je vous vois, je ne vous vois pas, ici plus qu'ailleurs n'est ma place. Je n'ai pas besoin qu'on se tasse, j'arrive à l'heure où l'on s'en va. Jeunes gens qui parlaient tout bas, quand je passe, dans cette vie à talons plats, que voulez-vous que ça me fasse? Si la fille qui vous embrasse me trouve un air de l'au-delà, jeunes gens qui parlaient tout bas, quand je passe, j'en viens, j'y vais, selon que là, l'une ou non m'a peint la face, selon ses quartiers de grimaces ou son plein air de falbala. Jeunes gens qui parlaient tout bas, quand je passe. Mais de toute façon, elle a l'air d'avoir oublié sa glace, comme moi, traversant l'espace, les pieds légers, le cœur là. Jeunes gens qui parlaient tout bas, quand je passe, en allez-vous ou restez là? Nous n'aurons croisé que nos traces, et déjà le bruit les efface avec sa traîne de lilas. Jeunes gens qui parlaient tout bas, quand je passe, écoutez s'éloigner mes pas. Je chante pour passer le temps, petit, qu'il me reste de vivre. Comme on décide sur le givre, comme on se fait le cœur content. À lancer cailloux sur l'étang, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en. Et j'ai franchi le mur des ans, des miracles pleins les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. Allons que ses doigts se dénouent comme le fronde avec la gloire. Nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous. Et l'alouette à nos genoux, allons que ses doigts se dénouent. Nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune. Nous avons fait des clairs de lune. Et j'en dirai, tant fut cette vie aventure où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts, les monts, les mers et les secrets. J'en dirai. Pour passer le temps, je chante au violon, s'use l'archer, la pierre au jeu des ricochets, que mon amour est touchante, près de moi dans l'ombre penchante. Oui, pour passer le temps, je chante. Je chante pour passer le temps, oui, pour passer le temps, je chante.
Et bien, Aragon Ferré, c'est une collaboration qui est un peu particulière parce qu'elle ne s'est faite que sur une période limitée. Enfin, Ferré a édité, j'ai plus la date exactement d'être, mais au début des années 60, je crois. 60 peut-être même. Oui. Un 25 cm à l'époque de 8 chansons, bon, qui sont définitives, on peut dire, quelque part, quoi. Et qui, la plus connue étant l'affiche rouge encore aujourd'hui, quoi, mais les autres ne sont pas moins belles. 10, ça, 10, c'est pas 8, c'est 10. Ma mémoire, on me trahit. Les 25 cm, on a tendance à les minimiser, oui, mon attend. Et puis, dans cette première édition, Léo Ferré, sur une page, Louis Aragon sur l'autre, avait écrit un texte qui, bon, pas dire explicatif, c'est pas le mot, mais peut-être un texte hommage de l'un à l'autre. Et pour fêter, célébrer cette rencontre entre la poésie, la littérature et la musique, quoi.
Oui, effectivement, ce sont deux textes qui me paraissent à moi très importants, et peut-être d'autant plus importants qu'ils sont totalement inconnus. À ma connaissance, ils n'ont été publiés que sur l'intérieur de l'enveloppe de ce disque, et puis au moment où le disque est sorti, dans les lettres françaises. Et ces textes n'ont jamais été repris nulle part depuis. On peut rappeler en deux secondes comment s'est faite cette collaboration. Aragon a publié à la fin de 1956 un poème. Il appelle ça poème au singulier. On pourra remarquer que tous les recueils, nous appelons des recueils, en fait Aragon les appelle poèmes au singulier. Même si ça a 425 pages comme le Fou d'Elsa, par exemple, qui est en même temps un roman d'ailleurs. Donc le roman inachevé, qu'est-ce que c'était? C'était une espèce d'autobiographie poétique en 250 pages. Hein. Il y a 250 pages dans l'édition. Bon, alors, Ferré, vous savez, Ferré c'est un nanar. Bon, Aragon, c'est un communiste, et un communiste bon teint à l'époque, etc. Donc, il n'y avait pas tellement de raisons, si vous voulez, que qu'il puisse collaborer, etc. Or, Ferré racontait qu'il a trouvé sur les quais, donc le livre était déjà d'occasion, hein, vraisemblablement, je pense, en 59, puisque le livre avait paru fin 56, une édition du roman inachevé, et qu'il a acheté, qu'il a feuilleté, qu'il a vu des textes qu'il accrochait, qu'il a acheté, il l'a emporté chez lui, et c'est à partir de là qu'il a sélectionné un certain nombre de textes, comme vous disiez, pour y mettre des musiques qui sont définitives et qui sont maintenant dans la tête des gens, enfin heureusement, et qui font partie du patrimoine poético-musical du XXe siècle. Alors, j'aurais voulu vous lire quelques passages, enfin sans être trop long, notamment du texte d'Aragon. Parce qu'il dit « À qui viendrait à l'idée de dire que Léo Ferré est un chansonnier ? C'est un poète. Un poète qui écrit directement ses poèmes suivant les lois d'un genre poétique, la chanson là est à la raison de ce don singulier qu'il a de réécrire à la chanson, c'est en italique, les poèmes des autres, de pratiquer un art très singulier qu'il faut bien appeler la mise en chanson des poèmes. » Bon, je saute, hein. Il arrive à Léo Ferré de dire que nous avons fait ensemble une chanson. Cela n'est pas tout à fait exact. J'ai innocemment écrit un poème et lui, il en a fait une chanson, ce dont je serais bien incapable. À chaque fois que j'ai été mise en musique par quelqu'un, je m'en suis émerveillé. Cela m'a appris beaucoup sur moi-même, sur ma poésie. J'ai l'habitude de dire que la mise en chanson d'un poème est à mes yeux une forme supérieure de la critique poétique. Une critique avec laquelle je puis être ou non d'accord, mais qui n'a rien à voir avec ce faible commentaire de ce qu'on dit ou de comment on le dit qu'est la critique écrite. Ici, c'est une critique créatrice. Elle recrée le poème. Elle y choisit, elle donne à un vers une importance, une valeur qu'il n'avait pas, le répète, en fait un refrain, et aussi elle néglige tel développement qui, tout à tort ou à raison, me paraissait indispensable. Elle saute des strophes, va avec audace de ce point du poème à sa conclusion, ne me dites pas qu'elle le déforme, elle lui donne une autre vitesse, un poids différent, et voilà que cela chante, et ça chante est en italique. Même si ce n'est pas tout, ce que j'ai dit ou voulu dire, c'en est une ombre dansante, un reflet fantastique, et j'aime ce théâtre qui est fait de moi. Bon, le texte continue et est aussi très intéressant.
La contribution de Louis Aragon est intéressante là aussi, parce qu'il y a toujours une polémique sur les poèmes mis en chanson. Oui, certains sont d'ardents défenseurs, d'autres les critiquent en disant que la poésie n'a pas besoin de musique pour se lire ou s'écouter. Louis Aragon, lui, avait une position différente. Et il a clairement exprimé dans cette sorte de préface à ce disque de l'époque.
C'est sûr.
Un autre poème mis en musique par Gérard André, Ils sont venus avec des fleurs.
Ils sont venus avec des fleurs, avec des chansons de voleurs et des étoffes de couleurs. Le jour les fuit, la nuit les craint. Plus pâles que leurs tambourins, leurs lèvres à goût de romarin. La 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 la. Et leurs baisers saignent la mûre. À peine ils frappent la mesure, leur pied a perdu sa chaussure. Dansant déjà comme on gémit, entre les bras de son ami, et déjà la terre en frémit. Ils sont venus avec des fleurs, avec des chansons de voleurs et des étoffes de couleurs. La voix leur sort, on dirait l'âme. On dirait du fourreau la lame, on dirait du ventre la flamme. La 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 la. Ils ont les yeux de l'Arabie. Ces garçons pareils au pain bis, si prompts à quitter leurs habits. Comme un fleuve sort de ses rives. Qu'on les prendrait pour la chaux vive, car l'eau même leur est lascive. Ils sont venus avec des fleurs, avec des chansons de voleurs et des étoffes de couleurs. Au trouble d'un soir étoilé, vous qui semblez bleu et noir dans le sein des blés. La 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 la. Cruel ivré à qui s'enivre, rien qu'à vous voir le cœur se livre, le cœur se meurt à vous voir vivre. La 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 la. Ils sont venus avec des fleurs, avec des chansons de voleurs et des étoffes de couleurs. La 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 la. Ils sont venus avec des fleurs, avec des chansons de voleurs et des étoffes de couleurs. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Ils sont venus avec des fleurs, Gérard André pour la musique, Louis Aragon bien sûr pour les paroles, et avec nous ce soir, je vous le rappelle, Jean Albertini, responsable régional de la Société des Amis de Louis Aragon, et Elsa Triolet pour parler de ces textes d'Aragon mis en musique. Là, on était dans le fou d'Elsa, et sur un texte qui, une fois de plus, j'allais dire, dans notre choix, c'est pas volontaire, mais ça se trouve comme ça, fait pas une grande part à Elsa.
Hein. Oh. Oui, c'est-à-dire que Le fou d'Elsa, bon, c'est dommage parce que c'est un texte qui est quasiment introuvable présentement. La seule édition qui en existe, c'est l'édition blanche de Gallimard, qui, je crois, doit coûter 200, je ne sais pas combien. Ah
bon, ça n'a pas été réédité.
Ça existe dans cette collection. Ça n'existe pas, par exemple, dans Poésie Gallimard, comme d'autres, d'autres textes. Et c'est dommage. Il faut dire que le livre est épais. Hein. C'est en même temps un poème et un roman. C'est sans doute le plus long poème de la langue française au XXe siècle.
Hein. Oui, on est dans les 500 pages. 400, hein, oui.
425 pages. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'appelle Le fou d'Elsa, mais en fait, c'est un roman dont l'action se déroule de 1490 à 1492, c'est-à-dire la fin du royaume arabo-andalou d'Espagne et la reprise de Grenade et de toutes les villes du sud là, par Isabelle la Catholique. Donc, si vous voulez, ce passage, ce poème a en fait une structure de roman. C'est-à-dire qu'il nous raconte une histoire.
Un roman historique, presque.
Oui, ouais, oui, par certains côtés, c'est un roman historique, mais il a voulu donner précisément une nouvelle vision de ce royaume arabo-andalou. Et il ne faut pas oublier que, bien que le poème ait paru en 63, c'est un texte qu'il a commencé à écrire en 59 et sous l'influence de la guerre d'Algérie.
Oui, j'ai jamais bien compris cette articulation.
Alors, précisément, il voulait faire quelque chose, si vous voulez, qui montre que les Algériens et les musulmans, la culture musulmane, était une culture qui nous avait, à nous, occidentaux, appris beaucoup de choses, et que nous devions énormément à cette civilisation musulmane, dont à l'époque on disait pique-pendre, hein, rappelons-nous les manifestations, vous savez, réprimées de façon sanglante par Papon, en octobre 61. C'est une période que moi je connais bien parce que j'ai fait la guerre d'Algérie, j'étais tout fin en ce moment-là. Les Arabes n'étaient pas bons à acheter au cher. Remarquez que ça n'a pas énormément changé, enfin, depuis, mais il y a quand même eu peut-être quand même quelques progrès. Et je l'espère, du moins. Mais donc, c'était une réponse, ce livre poétique, aux dénigreurs de la civilisation arabe. Et c'était, si vous voulez, sa réponse de militant aussi à précisément ce dénigrement. Bon, étant entendu que le livre va finalement beaucoup plus loin que ce simple.
Comme toujours chez Aragon, c'est un des aspects, mais il y en a d'autres.
il y en a d'autres, parce que finalement, il imagine que ce fou, alors c'est tout un rappel à la fin du livre, vous vous rappelez le lexique qu'il y a, ça a été un travail de sa part phénoménal sur précisément la civilisation, la philosophie arabe, etc. Et donc, le livre, d'après en tout cas Massignon et des spécialistes de la civilisation arabe, Jacques Berck, qui existait et qui était vivant encore à l'époque, il y a eu des articles d'eux pour saluer la fidélité historique, en quelque sorte, de ce grand poème. Bon, à côté de ça, il y a quand même toute une réflexion sur le temps. Et puis le fait que ce fou, qui est un fou au sens du fou du roi, hein, qui est le fou de Boabdil, le dernier roi arabo-andalou de Grenade, ce fou en quelque sorte est un hérétique. Alors il y a aussi tout le problème du poète qui est toujours un hérétique, si vous voulez, qui est tout ce thème-là se trouve à travers toute l'œuvre. Et le fait que cet homme, avec sa possibilité de vision de l'avenir, est amoureux d'une femme qui vivra au XXe siècle et qui est Elsa. Vous comprenez? Bon, alors, il est bien certain que dans ce passage, il n'est pas question d'Elsa, mais le thème général du livre, c'est ça, finalement.
C'est ça. Oui, parce que le lexique, moi, il m'avait toujours interrogé, j'ai jamais cherché à pousser, je me suis demandé si c'était aussi une construction poétique et des choses un peu imaginaires, toutes ces définitions qu'il donne.
Toutes ces définitions sont tout à fait exactes. C'est pour aider le lecteur à mieux profiter du livre.
Oui, donc, oui, mais bien sûr, c'est quelque chose, hein, le fou d'Elsa. On peut choisir peut-être un autre extrait de ce livre, différent, cette fois-ci sur le thème. C'est « Avant l'avenir et l'averse », une chanson, un texte que Gérard André a mis en musique aussi. On peut peut-être le présenter. Là,
C'est aussi tiré du fou. Hein. C'est page 102 dans le livre. En fait, c'est assez compliqué parce que c'est une référence à un tableau russe de 1851. Les allusions qu'il y a là-dedans. Et donc, si vous voulez, ça serait peut-être un peu long d'expliquer le détail, mais...
De 1851, donc oui. plus d'un demi-siècle avant la
Révolution.
Oui, parce
que il y a une... Enfin, c'est ce qui lui a donné l'idée de ce passage. Et bien entendu, c'est un poème d'amour, là. Hein. Faut-il qu'un jour le chant finisse, le temps va-t-il tantôt changer, et qu'aux oiseaux se désunisse, se défaire ce cœur que j'ai. Bon, on réévoquait tout à l'heure le fait que Aragon ait en quelque sorte pressenti et même senti sa vieillesse très tôt. Bon, là, dans ce texte qui a dû être écrit autour de 1960-61, c'est aussi ce même thème qui intervient. Et il faut tenir compte du fait que peu de gens savent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont agacés par tous ces poèmes d'Aragon pour Elsa. Moi, je remarque une chose, c'est que il a écrit tous ces poèmes surtout vers la fin de sa vie, et de leur vie, à tous les deux. Il avait un an de plus que lui, hein. Et il faut savoir qu'à partir des années 60, c'est-à-dire pendant les 10 dernières années de sa vie, elle était victime d'une artérite qui s'est aggravée constamment, qu'ils n'ont pas réussi à soigner, et c'est une maladie terrible, hein, parce que on lui avait même à elle proposé de lui couper les jambes pour la prolonger, et elle a refusé. Mais il faut quand même comprendre cette menace, si vous voulez, parce que l'artérite, c'est un truc qui... Vous passez de vie à trépas en un quart d'heure, hein. Et cette menace qui était là constamment et qui a fait qu'il a, je pense, c'est une des raisons qui ont fait qu'il a voulu magnifier son amour pour Elsa à travers et construire une sorte de monument de mots à la gloire de l'amour qu'elle lui avait donné et qui avait été pour lui si capital.
C'est intéressant ce que vous nous dites là. On aura forcément l'occasion d'y revenir, oui, parce qu'Elsa, c'est important. Eh bien, on écoute donc « Avant l'avenir et l'averse », un autre texte, extrait du fou d'Elsa, mis en musique par Gérard André. «
Faut-il qu'un jour le chant finisse? Le temps va-t-il tantôt changer? Et comme oiseaux se désunissent, se défaire ce cœur que j'ai. Avant l'avenir et l'averse, avant notre histoire effacée, avant que le soleil disperse aux vitres nos noms enlacés. Faut-il qu'un jour le chant finisse? Le temps va-t-il tantôt changer? Et comme oiseaux se désunissent, se défaire ce cœur que j'ai. Une minute, avant que soient partis les gens. Rappelez les joueurs de flûte, jetez-leur des pièces d'argent. Qu'encore une fois retentisse la musique de nos amours, avant qu'au loin s'anéantisse les derniers bruits du dernier jour. Faut-il qu'un jour le chant finisse? Le temps va-t-il tantôt changer? Et comme oiseaux se désunissent, se défaire ce cœur que j'ai. Une minute, avant que soit partis les gens. Rappelez les joueurs de flûte, jetez-leur des pièces d'argent.
Voilà, nous avons écouté Avant l'avenir et l'averse, texte de Louis Aragon, mis en musique et interprété par Gérard André. Le Fou d'Elsa, on était dedans, on a parlé des adieux, on a parlé du Fou d'Elsa, on a un tout petit peu parlé du roman inachevé aussi, il y en a beaucoup d'autres. On n'a pas parlé de Jean Ferrat encore, c'est peut-être le moment de l'évoquer un petit peu, Jean Ferrat qui lui par contre a commencé très tôt et n'a pas fini peut-être d'écrire des musiques sur des poèmes.
Je pense pas de trahir un secret d'État en disant qu'il m'a dit cet été qu'il continuait, oui.
Il pense à enregistrer lui-même, ou c'est pas.
Oui, je pense, oui. Il m'a pas fait ses confidences, mais.
Son dernier CD était splendide.
Mais justement, lorsque l'expo est allée en règle au mois de juillet, c'est lui qui a présidé l'inauguration.
Il préside l'association.
Il est d'ailleurs notre président national, de la société, c'est sûr. J'avais oublié de le dire, mais il faut le dire. Et donc, il nous a raconté un peu quelques anecdotes, notamment, on va publier ça en tête du prochain numéro de La Rue, qui peut paraître en début décembre, dans 3 semaines. Mais c'était assez marrant, d'ailleurs, parce qu'il nous a raconté comment il avait fait une musique un peu par hasard, qui collait juste sur Les yeux d'Elsa, le poème qui s'intitule Les yeux d'Elsa. Et donc, cette musique, alors il a voulu dire à Aragon qu'il y avait une vente du CNE, une vente de bouquins, enfin c'était un truc énorme qui était organisé tous les ans, une vente annuelle, et il a voulu dire ça à Aragon, et puis lui il était tout jeune, inconnu et tout, bon alors il y avait une queue pour faire signer, chacun voulait faire signer son bouquin, et lui est arrivé, mais au moment où il arrivait vers Aragon, quelqu'un a interpellé Aragon de derrière, lui a demandé je sais pas quoi, et lui, il a pas pu placer son compliment, alors Aragon s'est retourné après, il lui a dit c'est pour qui, il voulait savoir le nom auquel il voulait faire la dédicace, et lui il a bafouillé, et il est parti sans rien lui dire. Et puis il se trouve que André Claveau la musique a été déposée chez un marchand de musique, en fait, je sais pas comment ça marche, un éditeur. Ouais, et Claveau, en feuilletant les dossiers de cet éditeur, a trouvé la musique belle, et c'est finalement Claveau qui, le premier, a chanté une chanson une musique de Ferrat, quoi. Et puis ensuite, lui, a chanté lui-même « J'entends, j'entends » en 60. Mais ça, c'était bien avant, hein, ça devait être en 55 ou 56.
Oui, c'était tout début, hein, j'ai pas sous les yeux. On a le choix entre deux chansons de Aragon mises en musique par Jean Ferrat et interprétées par Gérard André, « J'entends, j'entends » ou « Heureux celui qui meurt d'aimer ». Qu'est-ce que vous préférez qu'on écoute?
Moi, j'aime autant « J'entends, j'entends », mais enfin, c'est vous qui voyez, hein.
Nos auditeurs, s'ils veulent entendre la deuxième, n'auront qu'à se rendre particulièrement
organique. Voilà. J'entends, ce qui est des poètes. Hein. C'est aussi une méditation sur la vieillesse. Hein, sur...
Encore un autre volume, donc, les poètes, un autre volume de poèmes de Louis Aragon. On écoute J'entends.
J'en ai tant vu qui s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu. Ils se contentaient de si peu, ils avaient si peu de colère. J'entends leurs pas, j'entends leurs voix, qui disent des choses banales. Comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir chez soi. Ce qu'on fait de vous, hommes, femmes, aux pierres tendres tôt usées, et vos apparences brisées. Vous regardez m'arrache l'âme. Les choses vont comme elles vont, de temps en temps la terre tremble. Le malheur au malheur ressemble, il est profond, profond, profond. Vous voudriez au ciel bleu croire, je le connais ce sentiment. J'y crois aussi moi par moment, comme l'alouette au miroir. J'y crois parfois, je vous l'avoue, à n'en pas croire mes oreilles. Ah, je suis bien votre pareil. Ah, je suis bien pareil à vous. À vous comme les grains de sable, comme le sang toujours versé, comme les doigts toujours blessés. Ah, je suis bien votre semblable. J'aurais tant voulu vous aider, vous qui semblez autre moi-même. Mais les mots qu'au vent noir je sème, qui sait si vous les entendez. Tout se perd et rien ne vous touche, ni mes paroles, ni mes mains. Et vous suivez votre chemin, sans savoir ce que dit ma bouche. Votre enfer est pourtant le mien, nous vivons sous le même règne. Et lorsque vous saignez, je saigne, je meurs de vos mêmes liens. Quelle heure est-il, quel temps fait-il, j'aurais tant voulu cependant gagner pour vous, pour moi, perdant, avoir été peut-être utile. C'est un rêve modeste et fou, il aurait mieux valu le taire. Vous me mettrez avec en terre comme une étoile au fond d'un trou.
En public, comme vous l'avez entendu, Gérard André interprétait Jean Ferrat pour la musique, Louis Aragon pour les paroles. J'entends, j'entends, un poème déjà des années 60 et qui a été mis en musique à ce moment-là, un des premier succès de Jean Ferrat avec Louis Aragon, il y en a eu beaucoup d'autres aussi, quoi. Il nous reste un petit peu de temps, il y a ce poème un peu curieux, L'homme seul dans oui. Les adieux. Comment vous le recevez, ce texte-là? Il fait partie d'ailleurs dans le bouquin des adieux d'un ensemble de 5-6 poèmes, mais genre, oui. Même plus, 8, 9, 10, 11.
En fait, c'est la deuxième partie d'un ensemble qui s'intitule Paroles perdues et qui comporte 14 parties. 14. C'est un texte de la fin 68. Celui-là, c'est bien un texte des années 60. Hein. C'est un texte de la fin 68 et je pense qu'il y a là aussi enfin, sans doute l'anticipation de la solitude qui va être la sienne si c'est Elsa qui part la première. Et puis le fait que, si vous voulez, il ne faut pas, je pense, prendre uniquement l'homme seul au sens individuel du terme, mais l'homme seul au sens où celui qui reste seul et qui n'est pas solidaire des autres. Quand on prend ce sens-là, tout le texte s'éclaire, je pense, parce que l'homme seul est impuissant, et il faut que l'homme soit solidaire des autres et lutte avec les autres pour que son action puisse être efficace et servir à ce que les hommes deviennent plus humains, enfin que l'humanité soit un peu, corresponde un peu plus à ce beau mot qui la désigne en quelque sorte.
Au niveau du sens, effectivement, je pense qu'on approche bien. Au niveau de la forme, il a un petit côté surréaliste. On a l'impression de voir Aragon flirter avec ses premières amours littéraires. Ben,
oui, non, mais ça, vous savez, moi, je... le surréalisme dans la prose et dans la poésie d'Aragon, c'est une chose qui n'a pas cessé de fonctionner jusqu'à sa mort, jusqu'à ses derniers textes. On sent qu'il est passé par ce creuset, par ce feu du surréalisme, et que ça a imprégné toute la suite, finalement, de son œuvre. Mais ce sont des vers réguliers, là. Hein.
Oui, c'est plutôt la forme, quoi.
C'est des octopèdes. Hein. Il y a beaucoup de textes de lui qui sont en octopèdes. Hein. En plus, justement, les octopèdes sont un type de vers qui est facile à mettre en musique. C'est peut-être pas un hasard si
ça n'échappe pas aux chanteurs.
Voilà, je suppose. Mais effectivement, les images sont très belles et sont des images qui, souvent, vous avez tout à fait raison de le souligner, sont des images qui sont frappées au coin de l'expression et de l'image surréaliste, en effet.
On écoute l'homme seul.
L'homme seul est un escalier, nulle part l'homme qui le mène, et lui demeure inhumaine. Toutes les portes des paliers, l'homme seul a les bras obliques, l'œil impair, le souffle rayé. Il n'a qu'ailleurs pour oreiller son sommeil et fille publique. Il est une lettre égarée, portait-elle une fausse adresse, à qui disait-elle tendresse, quelle mêle aurait déchirée. L'homme seul a des doigts devant, ce qu'on lui donne se fait cendre, plaisir même il ne peut rien prendre, que poussière le retrouvant. Il est une lettre égarée, portait-elle une fausse adresse, à qui disait-elle tendresse, quelle main l'aurait déchiré. L'homme seul n'a pas de visage, il n'est que vitre pour la pluie, et les pleurs que l'on voit sur lui appartiennent au paysage. Il est une lettre égarée, portait-elle une fausse adresse, à qui disait-elle tendresse, quelle mêle aurait déchirée. homme seul est un escalier. Nul part l'homme qui le mène et lui demeure inhumaine. Toutes les portes des paliers. L'homme seul n'a pas de visage, il n'est que vitre pour la pluie, et les pleurs que l'on voit sur lui appartiennent au paysage.
L'homme seul par Gérard André. Il y a bientôt temps de nous quitter. On a promis à nos auditeurs d'entendre L'étrangère, donc par la version de Gérard André en public. Auparavant, je vais demander à Jean Albertini, que je remercie d'avoir bien voulu participer à cette émission, de nous présenter la chanson L'étrangère, mise en musique par Léo Ferré.
Oui, alors L'étrangère, c'est un texte du roman inachevé dont on a parlé déjà tout à l'heure. En fait, c'est un certain nombre de strophes qui ont été choisies par Ferré dans un très long poème qui s'intitule « Après l'amour » et qui ne comporte pas moins de 43 quatrains d'octopèdes. En fait, c'est un souvenir qui est lié à son séjour à Venise en 1928, en septembre 1928, avec Nancy Cunard. Séjour qui l'a marqué profondément puisqu'il y a fait une tentative de suicide, qui tenait précisément au problème de ses relations avec Nancy Cunard et au fait qu'il était au bout du rouleau au niveau, compris c'était un peu avant qu'il avait détruit ce fameux roman Défense, La Défense de l'Infini, qui faisait presque 2000 pages. C'est un texte qui est lié aussi à la rupture avec Nancy Cunard qui se profile à l'horizon à ce moment-là. Et en fait, on voit aussi des correspondances de ce qui est dit là-dedans dans le roman Les Voyageurs de l'Impérial, dont la partie centrale se passe précisément à Venise et qui est censée se passer avant la guerre de 14, enfin, puisque la fin du roman, la dernière page, c'est la déclaration de guerre, mais d'un séjour à Venise pour lequel il a été inspiré par la vie de son grand-père. Enfin, c'est très compliqué, il faudrait avoir le temps d'expliquer ça en détail. On mettra ça lors du jour
de nos prochaines émissions avec plaisir. En 2000. Merci pour votre participation ce soir. On termine donc cette émission en écoutant Gérard André chanter Léo Ferré et Aragon, L'étrangère.
Je vous laisse à mon tour, comme le danseur qui se lève une dernière fois. Ne lui reprochez pas s'il trahit déjà ce qu'il porte en lui d'ombre. Je ne peux plus vous faire d'autres cadeaux que ceux de cette lumière sombre. Homme de demain, soufflez sur les charbons. À vous de dire ce que je vois. Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture. Ordinairement, au mois d'août, ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire. On danse en frappant dans ses mains, on n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, gai sans un sou vaguement gris, avec des fleurs pleines les charrettes, son destin dans la paume écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait les yeux d'outre-mer, elle en montrait la déraison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de fang. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci parla vite, vite de l'auteur des magnolias, sa robe tomba tout de suite quand ma hâte la délia. En ce temps-là, j'étais crédule,
Un mot m'était promis, sion, mais je connais les campanules pour les fleurs de la passion. À chaque fois tout recommence. Toute musique me séduit et la plus banale romance m'est éternelle poésie. Nous avions joué de notre âme. Un long jour, une courte nuit, puis au matin, bonsoir madame. L'amour s'achève avec la pluie.
Thank you.